J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois. Des bouts de phrases ramassés dans des téléphones, des photos d'amis à faune, le bombardement d'informations qui s'élance dans toutes les directions, des pigeons qui s'envolent, un couple qui traverse l'avenue, un camion qui vrombit, des gens qui marchent funambules sur le fil téléphonique de mes salles, les micro-moments de gloire, un message raciste sur un mur soudain devenu si triste, les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie, et moi qui sors de ma réserve. J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois. Le commencement du jour est sans mémoire. Il repose sur la table des constellations. Une forêt d'un bleu sombre sur une carte postale sans adresse. Le commencement du jour n'est que paresse qui repose sur le dos de nos ivresses. Espèce menacée et toutes les énigmes semblent résolues dans des concours de popularité. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie et moi qui sors de ma réserve.
Musique quelque peu expérimentale, nouvel extrait de Jérôme Minière, La vérité est une espèce menacée.
Allons-y donc avec la culture, spectacle temporel, une production de la Place des Arts et de Le Mieux Pilon 4D Art avec la collaboration des Sept Doigts. Les Sept Doigts qui ont été rebaptisés parce qu'avant c'était les Sept Doigts de la main, maintenant ce sont les Sept Doigts tout simplement. À la 5e salle de la Place des Arts, donc jusqu'au 27 janvier, c'est la critique de Jean Siag dans la presse d'aujourd'hui qui accorde au spectacle 3 étoiles et demie sur 5. Et sa critique est intitulée « Entre poésie et burlesque ». Cette première collaboration entre le tandem Le Mieux et les Sept Doigts s'est faite dans la plus grande discrétion. Il y avait pourtant matière à claironner. Michel Le Mieux et Victor Pilon, créateurs d'effets visuels spectaculaires, notamment avec le Cirque du Soleil, mais aussi au théâtre avec Icare, La Belle et la Bête, Norman, etc., aux côtés d'artistes de cirque dotés d'un penchant théâtral, les espoirs étaient grands de voir naître un projet phénoménal. Ironiquement, les concepteurs de cette fable acrobatique sur le temps qui passe ont peut-être manqué de temps pour lier tous les éléments scéniques de ce spectacle visuel éblouissant, qui mêle les genres et les ambiances avec une certaine maladresse. Cela dit, il y a de magnifiques tableaux qui combinent tous les talents, à commencer par la scène d'ouverture, où nous sommes en présence d'un couple âgé qui se remémore ses jeunes années. Patrick Léonard et Isabelle Chassé, qu'on ne voit pas souvent sur scène, y vont d'une superbe chorégraphie, tantôt avec masque, tantôt sans, sur une scène inclinée vers le public, appuyée par des projections de leurs personnages à différents âges. Un troisième personnage, Gisle Henriette, incarne le temps, celui qui passe, qui fait qu'on oublie, qu'on se rappelle, qu'on désire, qu'on regrette, et qui nous fait réaliser qu'on n'a pas vraiment d'âge. Un très beau flash qui permet des interactions acrobatiques avec les deux personnages principaux. Les livres que l'on retrouve dans la bibliothèque sont abondamment utilisés dans les chorégraphies, mais parfois de façon abusive ou incohérente. Et puis, il y a ces brusques changements de ton, de rythme et de genre, où Patrick Léonard, qui vient de représenter son spectacle clownesque patinoire à la Tohue, pêche par excès de zèle dans ses interprétations à la Buster Keaton, notamment dans une scène dramatique où l'appartement du vieux couple prend feu. On fait ici dans le slapstick notre homme déguisé en pompier glissant sans cesse de son échelle en poussant des O et des A à retirer, point d'exclamation, écrit Jean Siague. C'est dans cette scène-là que Temporel perd tout son sens, sa subtilité, sa poésie. Parce qu'aussitôt après, on retrouve le petit écrin cynique dans lequel évoluent les personnages. Dans une des scènes les plus touchantes, le vieil homme est attiré par le spectre de sa femme disparue, éloigné par le temps qui le distance sans cesse. Dans un autre très beau segment, on retrouve le personnage féminin, jeune, face à un cerceau qui fera office de miroir, mais qui servira à exécuter une très jolie chorégraphie où se mêlent le présent et le passé. C'est dans ces moments-là qu'on sent les effets spéciaux de Lemieux Pilon bien ancrés dans la dramaturgie de Temporel. Même si certaines illusions, comme le dédoublement de Patrick Léonard, sont impressionnantes en soi. Le dernier tableau est extrêmement émouvant. L'hologramme du personnage masculin à l'adolescence entonne avec le temps de Léo Ferré avec sa voix encore enfantine. Une chanson extraordinaire, tout le monde en conviendra, mais qui vous rendra cafardeux pendant au moins 2 jours. Peut-être qu'un couplet aurait suffi. Bref, espérons que ce spectacle continue de se peaufiner et de se resserrer parce qu'il y a de riches idées et de magnifiques images dans ce Temporel plein de promesses, bien meilleur sans ces tentatives burlesques. Deneuve assume et présente ses excuses. C'est un texte de Séverine Roubi, publié dans Le Devoir d'aujourd'hui. Catherine Deneuve, signataire vedette d'une tribune sur la liberté d'importuner à l'origine d'une polémique enflammée en France comme à l'étranger, a présenté dimanche ses excuses aux victimes d'agressions tout en assumant ce texte vigoureux, à défaut d'être parfaitement juste. « Je salue fraternellement toutes les victimes d'actes odieux. Odieux, qui ont pu se sentir agressés par cette tribune parue dans Le Monde, c'est à elle et à elle seule que je présente mes excuses », écrit l'actrice dans une lettre publiée par le quotidien Libération sur son site Internet. La tribune parue mardi dans Le Monde défend la liberté d'importuner pour les hommes, l'estimant indispensable à la liberté sexuelle, à contre-courant de l'élan né de l'affaire Weinstein. Si le texte était signé par une centaine de femmes, c'est la plus célèbre de ses signataires qui a concentré les critiques. Catherine Deneuve et d'autres femmes françaises racontent au monde comment leur misogynie intériorisée les a lobotomisées au point de non-retour, avait notamment fustigé l'actrice Asia Argento, qui a accusé le producteur américain Harvey Weinstein de l'avoir violée. Il y a, je ne suis pas candide, bien plus d'hommes qui sont sujets à ces comportements que de femmes. Mais en quoi ce hashtag « balance ton porc » n'est-il pas une invitation à la délation, dit Catherine Deneuve. J'ai effectivement signé la pétition. Oui, j'aime la liberté. Je n'aime pas cette caractéristique de notre époque où chacun se sent le droit de juger, d'arbitrer, de condamner, explique Catherine Deneuve, qui s'exprime pour la première fois depuis la parution de La Tribune. Une époque où de simples dénonciations sur les réseaux sociaux engendrent punitions, démissions et parfois et souvent lynchage médiatique. Je n'excuse rien. Je ne tranche pas sur la culpabilité de ces hommes, car je ne suis pas qualifiée pour. Et peu le sont, poursuit-elle. Il y a, je ne suis pas candide, bien plus d'hommes qui sont sujets à ces comportements que de femmes. Mais en quoi ce hashtag, donc je répète, balance ton porc, n'est-il pas une invitation à la délation? Va-t-on brûler Sade en Pléiade, désigner Léonard de Vinci comme un artiste pédophile et effacer ses toiles, décrocher les Gauguins des musées, détruire les dessins d'Egenschill, d'interdire les disques de Phil Spector? Ce climat de censure me laisse sans voix et inquiète pour l'avenir de nos sociétés. Alors plus haut, elle écrivait qu'elle s'inquiétait en outre du danger des nettoyages dans les arts. Avant cette tribune, l'actrice s'était déjà attirée les foudres de féministes en soutenant Roman Polanski, accusé de viol, un réalisateur avec qui elle tourna Répulsion. Rappelant son engagement féministe à l'époque de la signature du Manifeste des 343, revendiquant en 1971 un avortement alors criminalisé, Deneuve se désolidarise toutefois des propos tenus par certaines de ses co-signataires. Dire sur une chaîne de télé qu'on peut jouir lors d'un viol est pire qu'un crachat au visage de toutes celles qui ont subi ce crime, estime-t-elle en référence à des déclarations de l'animatrice de radio et ancienne star du porno Brigitte Lahaie. Évidemment, rien dans le texte ne prétend que le harcèlement a du bon, sans quoi je ne l'aurais pas signé, assure Deneuve, qui confie avoir été durant sa carrière témoin de situations plus qu'indélicates. Mais pour elle, la solution viendra de l'éducation de nos garçons comme de nos filles, mais aussi éventuellement de protocoles dans les entreprises qui induisent que s'il y a harcèlement, des poursuites soient immédiatement engagées car elle croit en la justice. La réponse de Deneuve, attendue ce lundi à Angers au Festival Premier Plan, où elle préside le jury, était guettée par après les nombreuses réactions cette semaine en France comme à l'étranger. En France, La Tribune avait été critiquée par des militantes féministes et des personnalités politiques. Je voudrais dire aux conservateurs, racistes et traditionnalistes de tout poil qui ont trouvé stratégique de m'apporter leur soutien, que je ne suis pas dupe. Ils n'auront ni ma gratitude, ni mon amitié, bien au contraire, écrit l'actrice dimanche. Le 12e Igloo Fest démarre jeudi avec pour tête d'affiche Keitra Dana, Montréalais qui brille de tous ses feux sur la planète entière. Près d'une cinquantaine de DJ producteurs seront associés à presque autant de VJ pour stimuler les nuitards à s'éclater sous le point de congélation. En retournant à la formule compacte de trois week-ends, une première depuis 2012, les promoteurs d'Igloo Fest font le pari d'attirer autant de monde en misant sur l'urgence du moment. Quelques artistes présents, il y aura Petit Biscuit, aussi Michael Sparks, Oliver Heldens, Rafa Barrios, aussi Sasha & John Digweed, ainsi que Ento Warwalks, Jay Pastor. Bon Igloo Fest.
On était jeunes, on se croyait dans un film de Woody Allen, en rigolant. Dans un tableau de Picasso, on était une jeunesse pleine d'ivresse, dessinant nos portraits si abstraits. On était dans l'âge con, mais si bon. C'était une sorte de révolution. Et puis nos rires, et puis son sourire. On marchait et on se regardait. Même pour le pire, on était vivant. C'était un jeu d'enfant, façon crescendo. On parlait d'amour comme dans une chanson de Gainsbourg. On se croyait comme dans un nocturne de Chopin. On pensait tous pouvoir décrocher la lune. C'était une sorte de déclaration. Et puis nos rêves. Et puis sa trêve. On titubait et on se serrait. Ivre de rire, ivre d'un amour géant. Mais pour le dire, on était vivant. C'était un jeu d'enfant. On se sentait gagnant. D'un temps les plus grands jouaient aux plus perdants. Nous faisions les 400 coups, mais sans aucun tabou, car la vie est une danse qui a tant d'importance. C'était deux jeunes enfants qui se sentaient vivants.
Nouvel extrait de Lulu Gainsbourg, Jeu d'enfant.
Sujet libre, techno, gestion des écrans, reprendre enfin, entre parenthèses, le contrôle. L'inquiétude au sujet du temps passé par les jeunes devant les écrans ne date pas d'hier. Par contre, le drapeau rouge levé par des investisseurs d'Apple la semaine dernière ravive les préoccupations de nombreux parents. Peut-on encore aider nos enfants à garder le contrôle? C'est un article d'Isabelle Audet. Au début du mois, deux investisseurs ont demandé à Apple de trouver des moyens de limiter l'utilisation de ses produits par les enfants. Le géant a alors annoncé qu'il bonifiera sous peu les options de contrôle parental sur ses appareils. Car en fin de compte, il revient aux parents d'aider leurs enfants à trouver un équilibre. Avant de bannir les écrans, il existe des solutions concrètes pour en gérer l'utilisation à la maison. Pour les connaître, nous en avons discuté avec 7 spécialistes. Se connaître avant d'agir. Afin de favoriser une prise de conscience en famille, il peut être d'abord pertinent de comptabiliser le temps d'écran sur un tableau, suggère l'équipe de Québec en forme. Tous les membres de la famille, et oui, se prêtent à cet exercice au cours d'une période prédéterminée. Chaque personne note le temps qu'elle a passé à utiliser la technologie et pourquoi elle y a eu recours. On a alors une base de discussion plus solide pour encadrer l'utilisation des écrans à la maison. De plus, on peut plus facilement souligner ce que l'on considère comme du temps d'écran de qualité, ou pas, ajoute Thierry Plante, spécialiste en éducation aux médias pour Abilo Média. Alors, on voit un tableau sur lequel est écrit « temps d'écran » et à côté « ce que j'ai fait ». Donc, une heure, YouTube, 30 minutes, Candy Crush, 3 heures, et ça continue comme ça. Qui a le contrôle? Cette prise de conscience est cruciale, souligne Jean-Michel Pelletier, psychologue. Avec les adolescents, il précise qu'il peut être intéressant d'aller plus loin. Le psychologue qui se spécialise en motivation fait entre autres comprendre aux jeunes comment les grandes entreprises cherchent à monopoliser leur attention. Il leur explique comment, avec un graphisme efficace et un système qui récompense les utilisateurs assidus, elles arrivent à rendre les utilisateurs accros. Les adolescents n'aiment pas être contrôlés, ni par leurs parents, ni par une entreprise, souligne-t-il. Le psychologue ajoute que bien souvent, lorsqu'ils constatent qu'ils n'ont pas le plein contrôle, les jeunes se montrent plus ouverts aux stratégies pour s'éloigner des écrans. Gestion visuelle du temps. La Société canadienne de pédiatrie recommande de ne pas laisser les enfants de moins de 2 ans devant des écrans. À cet âge, la priorité va être mise sur la socialisation, précise Stéphanie Lebrun, psychologue en milieu scolaire. Par la suite, pour amener les enfants à prendre eux-mêmes des décisions, Solène Bourque et Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrices, suggèrent l'utilisation de coupons, de jetons ou de billes pour matérialiser le temps passé devant les écrans. Chaque objet permet, par exemple, l'utilisation d'un temps prédéterminé, entre parenthèses 15 ou 30 minutes par exemple, de tablettes ou de jeux vidéo. Si l'enfant dispose d'une heure le samedi, il doit ainsi l'utiliser à bon escient. Il devient alors responsable de la gestion de son temps d'écran. On sait aussi que les enfants ont tendance à se conformer aux demandes lorsqu'ils ont une marge de manœuvre et un certain contrôle, explique Stéphanie Deslauriers. Privilégier les aires communes. Tous les intervenants s'entendent sur ce point. L'utilisation des appareils mobiles, jeux vidéo et ordinateurs comporte moins de risques lorsqu'elle a lieu dans une pièce commune. Et ce, peu importe l'âge de l'enfant, précise Solène Bourque, psychoéducatrice. À l'adolescence, certaines circonstances peuvent permettre l'utilisation d'un écran dans une chambre, mais pour favoriser les discussions et les rigolades au sujet d'une vidéo comique aussi, les parents ont tout avantage à demander aux jeunes de s'installer au salon, quitte à utiliser des écouteurs. S'il survient une situation dérangeante pour notre ado, on va le voir dans son visage. S'il est dans sa bulle, dans sa chambre, on ne le verra pas, ajoute la psychoéducatrice. Apprivoiser l'ennui. La psychologue scolaire Stéphanie Lebrun note que partout les téléphones intelligents et les tablettes sont utilisés pour combler un temps d'attente. Elle insiste toutefois sur l'importance d'apprivoiser ces moments et de faire du temps d'écran une récompense plutôt qu'un réflexe pour se désennuyer. C'est une solution facile. On peut toutefois préparer un sac d'activités ou proposer des petits jeux pour attendre, affirme la psychologue. C'est correct et c'est normal d'avoir besoin de moments de répit une fois de temps en temps, ajoute Amélie Méchart, psychoéducatrice. Par contre, avec les plus petits, si on voit l'écran comme une occasion de passer du temps ensemble, plus que comme un outil qu'on utilise toujours pour les occuper, on les aide à voir les écrans différemment dès le plus jeune âge. Ranger les appareils, sortir les jeux. À la maison, les tablettes s'ajoutent souvent aux téléphones intelligents et aux ordinateurs portables. Difficile alors de faire la gestion de tous ces appareils, en convient Thierry Plante. Pourquoi ne pas créer un espace de chargement unique pour s'assurer, le soir venu, qu'aucun appareil n'est oublié dans une chambre? Amélie Méchert suggère d'ailleurs que les appareils ne soient pas rangés à portée de main pour éviter qu'on les utilise trop fréquemment. Profitons-en pour mettre les jeux de société plus en vue pour qu'on ne les oublie pas, propose Stéphanie Deslauriers. Ce temps de jeu prendra inévitablement du temps qu'on aurait peut-être consacré aux écrans, ajoute-t-elle. Donnez l'exemple, tous les spécialistes interrogés insistent sur ce point. Il est souvent tout aussi difficile pour les parents de se détacher de leurs appareils mobiles. Or, les gestes ont une portée éducative plus grande que les paroles, explique-t-il. On fixe des limites, mais ce genre de contrat fonctionne encore mieux si le parent a des règles à respecter lui aussi, explique Thierry Plante. On peut s'amuser et donner des conséquences même aux parents, avec humour. En discuter ouvertement. Ne pas utiliser d'appareil à table. Fermer tous les écrans au moins 2 heures avant le coucher. Ne pas dormir avec un téléphone intelligent à portée de main. Les parents fixent des limites, mais si elles sont issues d'une discussion ouverte en famille, les règles sur l'utilisation de la technologie auront une meilleure portée. C'est l'occasion pour un jeune d'expliquer, par exemple, qu'il a besoin d'un bloc de 90 minutes pour terminer une partie de son nouveau jeu vidéo. Les parents prennent le temps de comprendre ce qui l'intéresse et ils ajustent le temps d'écran en conséquence. Si les limites sont cruciales, l'empathie et la discussion sont des avenues gagnantes, assure Jean-Michel Pelletier. Diminuer graduellement. On constate qu'on a collectivement perdu le contrôle? Résistons à la tentation de tout arrêter d'un coup. Pour les jeunes qui jouent 5 heures par jour, passer à 2 heures peut être très difficile, souligne Solène Bourque. Au cours d'une discussion en famille, il peut être convenu de diminuer progressivement le temps d'écran quotidien 30 minutes à la fois, jusqu'à arriver à une utilisation plus convenable. Il faut aussi comprendre que la distinction entre la vie en ligne et la vie hors ligne est beaucoup plus floue pour les adolescents. Si on n'y va pas trop fort, ça peut avoir un impact sur leur vie sociale, qui est extrêmement importante. C'est plutôt si on y va trop fort. Ça peut avoir un impact sur leur vie sociale qui est extrêmement importante, ajoute Thierry Plante. Et si rien ne fonctionne? Enfin, au-delà de toutes ces stratégies, il peut être pertinent de consulter un professionnel en certaines circonstances. Si l'on constate que notre enfant s'isole, si on remarque qu'il a des difficultés de sommeil, si son comportement change, si son rendement académique est affecté, il peut être important d'aller chercher de l'aide, ajoute Stéphanie Lebrun, psychologue. Des ressources, consultez les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, lisez les astuces pour limiter le temps d'écran de Wix Mag, consultez le site Abilo Media et regardez la vidéo conçue par Jean-Michel Pelletier pour les adolescents. Tous les liens sont dans la presse d'aujourd'hui. Quelques 1700 communes du Japon sont dotées de modèles personnalisés colorés de ces plaques de fonte pour embellir leur espace public. Les motifs font généralement référence à l'histoire, à la géographie ou à des spécialités locales. Un château fort pour Osaka ou le mont Fuji pour la ville du même nom située au pied du célèbre volcan. Tama City, ville de la banlieue ouest de Tokyo, a quant à elle choisi une icône plus récente, le chat Hello Kitty. Il orne 10 plaques d'égout. Alors, des plaques d'égout transformées en œuvre d'art au Japon. Ici Hélène Denis, merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Je vous invite à rester avec nous. Dans un petit moment, j'anime les paractualités si vous nous écoutez en direct. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et au choix musical.